tous et bienvenue dans ce 36e épisode des Clairvoyants. Bonjour Geekzone, 36e épisode donc des Clairvoyants, notre rendez-vous mensuel avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Comme chaque mois, je suis accompagné de mes deux acolytes Fox et Archeon. Bonjour les gars.
Hey.
Salut.
C'était un hey très enthousiaste.
Hey, c'est la 36e émission, c'est les 3 ans des Clairvoyants quand même.
C'est vrai, on se fait vieux et c'est plus ou moins raccord à 2 années près avec les Avengers puisqu'ils ont fêté leurs 5 ans début du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Et on va bientôt fêter l'année prochaine les 10 ans du MCU. Déjà, ça va vite. Et on a encore plein de choses à dire. Enfin, ce mois-ci, ça a été un petit peu plus calme, comme vous le verrez. On est juste avant la sortie de Spider-Man, donc il n'y a plus de grosses annonces parasites qui viennent gêner la sortie du film. On a eu un nouveau trailer, enfin quelques petites scènes inédites des clips, mais rien de vraiment croustillant à se mettre sous la dent. On va néanmoins faire le tour des news. On va faire un focus ce mois-ci. Thomas, on fait un focus sur
Vulture.
Sur Vulture. Vulture, même pour les.
Mon accent, oui, il faudra le pardonner.
On fera avec. Et on en profitera aussi pour faire un petit peu de théorie crafting. On fera le bilan de Agents of S.H.I.E.L.D. puisque la saison 4 s'est terminée. Donc ce sera l'heure de faire le bilan un peu de la série, de voir où on en est et de voir ce qui nous attend peut-être l'année prochaine en refaisant évidemment le parallèle avec les films du MCU, voir si on va enfin avoir des connexions ou pas. On continue de nous faire miroiter des choses, mais pour le moment rien de bien concret. Je propose qu'on attaque tout de suite avec notre rubrique News True Believers.
I would say I'm a true believer.
True Believers, notre rubrique de news en rapport direct avec le MCU. On va commencer par un petit point Guardians of the Galaxy Volume 2. La sortie US a eu lieu entre le dernier épisode et cet épisode-ci. Et on en est à peu près à 350 millions de dollars accumulés au box-office américain. Et au total mondial, ça fait 818 millions à l'heure où je vous parle. C'est plutôt pas mal. Hein.
C'est un gros succès pour les Guardians. Et au total, enfin, on approche petit à petit du milliard. Les Blu-ray sont pas sortis. On est à peine un mois et demi après l'exploitation, au début d'exploitation. Il y a encore les sorties, je pense, au Japon qui sont pas faites et tout. C'est un gros succès. Gros succès.
Moi, j'avais dit qu'on pourrait avoir un score digne d'Iron Man 3 et on est bien parti pour, en tout cas. Spider-Man Homecoming, c'est la prochaine sortie MCU. On a encore, comme je disais, quelques petits clips qui sont sortis d'ici de là et on va encore en avoir dans les semaines qui viennent. Je rappelle que le film est prévu chez nous mi-juillet, une semaine, à peu près 10 jours, si je dis pas de conneries, après la sortie US, donc on va devoir faire attention aux spoilers. Enfin, nous on s'en fout, c'est notre boulot, mais vous faites attention. On a un premier extrait de la bande-son. Michael Giacchino a posté sur son Instagram un extrait d'une session orchestrale assez particulière. Je propose qu'on l'écoute. Reconnu l'extrait évidemment du dessin animé qui date de quoi, des années 60 hein, Fox hein.
C'est ça, les années 60. Et puis j'aime bien, moi, la reconstruction de Giacchino est intéressante. Elle a un côté un peu mystique et en même temps elle tape quand même direct dans les feels parce que c'est la musique de Spider-Man quoi. C'est Spider-Man est le héros Marvel le plus aimé des foules et il reste quand même une grosse part de la pop culture comics encore aujourd'hui quoi.
Voilà, c'est un thème qu'on avait déjà pu entendre dans les précédents Spider-Man, je crois qu'à part Amazing Spider-Man 2, il était dans chaque film.
Ce film n'existe pas.
voilà, déjà. Sous une forme ou une autre, hein, c'était plus un hommage en général qu'autre chose. Là, il est carrément intégré a priori à la bande-son, et ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Et je trouve que ça colle plutôt bien avec l'idée qu'on va avoir Spidey donc dans son costume original, hein, fabriqué de bout de ficelle, vu qu'il va être privé de son beau costume offert par Tony Stark. On a aussi une info sur la durée officielle du film, il fera 130 minutes. Bon, c'est dans les cordes des films habituels du MCU. Hein.
Il faudra voir si, comme on a eu le problème avec certains films récents, est-ce que 2h10 c'est suffisant, ou est-ce qu'on va encore regretter de ne pas avoir 25 minutes de plus pour étaler un petit peu l'histoire sur certains personnages ou sur certaines phases du film.
Alors c'est à prendre avec des pincettes, ça n'a pas été confirmé par Marvel, c'est une news qui a fuité, mais voilà, c'est pas encore sûr à 100%, mais a priori 130 minutes, moi ça me paraît une durée tout à fait correcte. Voilà, c'est le format classique des sorties MCU, surtout pour une nouvelle franchise comme celle-là, et surtout pour une franchise qui va s'adresser à un public un petit peu plus jeune, on va éviter de virer du coup dans les 3 heures de film. Ça me paraît tout à fait envisageable, 130 minutes, donc on verra, on aura confirmation quand ça sortira chez nous au mois de juillet. Avengers Infinity War, deux infos casting. D'abord, a priori, donc le retour de Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, qu'on découvrira dans Thor Ragnarok à la fin de l'année, en novembre. Elle sera de retour elle a été vue sur le tournage d'Infinity War en Écosse. Et puis, une deuxième info casting, plus du côté de Black Panther, mon cher Fox.
Oui, alors que Black Panther est même pas encore sorti, on nous annonce que Winston Duke, qui interprète M'Baku, c'est-à-dire Man-Ape, l'homme singe, sera directement à l'affiche d'Infinity War, donc c'est une surprise. Moi, le premier, je pensais pas, alors qu'on est quand même loin encore du film, de savoir déjà donc que M'Baku sera présent et donc ne mourra pas à la fin de Black Panther, c'est déjà ça.
Ça pourrait être un flashback, mais ça prouve en tout cas qu'il y aura des connexions entre Black Panther et Infinity War, et ça c'est plutôt cool. C'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment du côté du Cinoche, hein. On voit que c'est très très calme, on attend la sortie de Homecoming, on pourra vous en reparler quand on l'aura vu. On aura probablement des news Fox plus tard. Hein.
Oui, bah on verra déjà la Comic-Con fin juillet, et puis après, on va avoir tous les trailers qui vont commencer à fuiter, puis on va attaquer surtout, à partir de juillet, la publicité pour les séries télé, donc Defenders, Inhumans, Jessica Jones et toutes les séries Netflix aussi. Étant donné qu'on a un gros creux d'Agents of S.H.I.E.L.D., c'est Inhumans qui va prendre les devants, et puis après, on a Thor Ragnarok, donc c'est... ils ont quand même mis 3 films cette année, donc ils sont obligés de laisser une petite période de creux, qui est à peu près le mois de fin mai, début juin, pour terminer exploitation d'un film, laisser un peu finir et attaquer la nouvelle exploitation, quoi.
Je crois qu'on va être bombardé post-Comic-Con, hein, parce qu'on va avoir dans la foulée Thor Ragnarok qui va sortir, puis quelques temps après Black Panther, et puis Infinity War, premier volet, pour lequel on risque d'avoir une grosse campagne de marketing. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on peut vous dire du côté du Cinoche. On va passer du côté de la télé. Agents of S.H.I.E.L.D., la série a été reconduite pour une 5e et a priori dernière saison. Elle débutera, on le disait tout à l'heure, après Inhumans, donc début 2018, en janvier plus exactement, et a priori elle sera diffusée d'une traite, donc sans interruption, comme ce fut le cas les années précédentes, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On en reparlera tout à l'heure, hein, Fox, dans notre,
oui, bien sûr,
notre section Terrorcrafting. On verra un peu ce que nous laisse comme impression cette saison 4.
Il y a des choses
4.
À dire.
Oui, il y a des choses à dire, effectivement, même si, enfin, qu'on ait ou pas aimé, finalement, le MCU télé continue son petit bonhomme de chemin. Et puis en parlant du MCU télé, on va découvrir Inhumans, donc avant Agents of S.H.I.E.L.D. au mois de septembre, d'abord dans les salles en IMAX avec les deux premiers épisodes dans des versions éditées, donc plus courtes, et puis on aura les versions intégrales de ces épisodes en télé. Et on a pas mal de choses à dire qui sont pas trop positives, hein. D'abord, on a eu une première photo de la team qui paye pas de mine, hein, on va pas se mentir.
Ah là, comment vous dire la déception qui a pu m'étreindre au moment où j'ai vu cette image de Black Agar Boltagon qui ressemble à rien.
Déjà, c'est pas babouliné, donc tu dois être tout triste.
Ah non, mais c'est pas babouliné, je suis d'une tristesse infinie, mais encore ça je peux gérer, si tu veux, je suis un adulte responsable. Mais quand j'ai vu la gueule de Médusa, seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, enfin c'est ses cheveux, cette tenue, ce regard de vache morte, c'est compliqué, je le sens terriblement pas, et le trailer m'a pas rassuré non plus.
Alors il y a eu un trailer donc qui a leaké, hein, d'abord sous forme de screenshot, et puis ensuite il y a une espèce de version capturée assez pourrie. Le trailer vend pas du rêve non plus, c'est assez confus, il y a pas énormément d'effets spéciaux. On a eu un leak d'une scène avec le chien dont j'ai oublié le nom.
Lockjaw,
voilà. Ouais. Bon, et c'était pas non plus particulièrement convaincant.
Enfin, ça sent, c'est terrible, ça sent la défaite. J'ai envie de dire, ça sent tellement la défaite, cette série, ça m'inquiète.
Et c'est à tel point que même ABC a pas l'air d'y croire, hein, puisqu'ils ont programmé la série dans ce qu'on appelle le dead slot, qui est donc le slot où vont mourir les séries, donc le vendredi soir. C'est là où on va retrouver Agents of S.H.I.E.L.D. également pour ce qu'on pense être sa dernière saison. Donc, bah, je sais pas, moi, franchement, ça me rassure pas, d'autant plus que tout ce qu'on a pu se mettre sous la main, là, comme on disait tout à l'heure, le trailer, les photos de la team, etc. C'est un petit peu inquiétant, donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis pas particulièrement rassuré sur l'essor de cette série qui, à mon avis, va pas durer plus d'une saison.
Bah, de toute façon, vu la tronche du machin, je suis loin d'être convaincu déjà, et pourtant je suis connu pour être un enthousiaste des Inhumans, mais le Deathlot déjà, c'est un truc, enfin, les mecs, ils mettent le vendredi ce qu'ils veulent, ce en quoi ils ne croient pas ou ils ne croient plus. Il y a certaines séries qui s'en sont sorties, je pense à par exemple Van Helsing qui a marché en étant programmé le vendredi soir, tu vois. Mais bon, il y a quoi à côté, quoi. C'est le vendredi soir, c'est il y a rien en face qui peut. D'accord, ça peut être, on va dire un truc. Oui, il y aura peut-être plus de monde qui regardera ça vu qu'il y a que de la merde ailleurs, mais. Là, j'y crois pas, quoi. Et passer Agents of S.H.I.E.L.D. un vendredi soir, c'est encore une fois un constat de défaite, parce que ça casse complètement le rythme de la semaine aussi pour les gens qui sont habitués, et puis par rapport à d'autres séries qui vont reprendre en même temps, quoi.
Bah, disons que Agents of S.H.I.E.L.D., c'est pas la première fois qu'elle le déplace, et puis pour le coup, comme on sent que c'est un peu la dernière saison, ça me paraît déjà plus logique que ce soit programmé un vendredi soir. Inhumans, franchement, quand tu vois la thune qui a été investie avec le tournage IMAX, etc., une sortie en salle, et là tout à coup on se retrouve avec un slot un peu étrange, une voie de garage déjà, alors que la série est même pas encore sortie, il y a très très peu de promos, enfin le trailer est pas sorti officiellement à l'heure où on enregistre, alors qu'il a leaké depuis 3 semaines maintenant.
D'habitude Marvel est plus rapide là-dessus justement, il confirme et il donne.
Ouais, tout à fait, il file les trucs, et là pour le coup on n'y croit pas trop, donc on va voir, on espère se tromper, mais pour le moment on a l'impression qu'ils y vont un peu reculons, c'est pas vraiment encourageant. Cloak and Dagger, on n'a pas beaucoup plus de news, hein, puisqu'on a juste eu un trailer pour le moment qui était plutôt cool, donc on attend de voir. On n'a pas d'infos encore sur la sortie de la série, en dehors du fait que ça sortira en 2018. En revanche, Fox, on a des news concernant la BO, puisqu'on a un nom de compositeur et c'est plutôt cool.
C'est Mark Isham qui s'est occupé de la musique de la série Once Upon a Time et qui s'occupe de Valérian.
Le film de Luc Besson, ouais.
Oui, le nouveau film de Besson. Alors ça, on verra ce que ça donne. C'est une autre histoire, mais on parle de Besson.
C'est un monsieur qui a un CV long comme le bras, qui a beaucoup bossé en télé, en cinoche.
C'est un très bon compositeur qui va signer Cloak & Dagger et qui va certainement réussir à lui donner un côté un peu féerique et réussir à raconter un peu l'histoire d'amour entre justement Cloak & Dagger. Donc c'est son boulot sur Once Upon a Time était très bon, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur ce point-là.
Voilà, donc ce sera sur Freeform, hein, la chaîne familiale d'ABC. Et là, pour le coup, on a l'impression qu'ils y croient quand même un petit peu plus parce qu'ils ont mis la main à la poche pour aller chercher Mark Isham, voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, Cloak & Dagger, dès qu'on a plus de news, mais je pense que ça va se calmer un peu de ce côté-là, parce que si la série sort pas avant 2018, je pense que là, ils vont essayer plutôt de mettre le focus, normalement sur Inhumans, sauf s'ils y croient vraiment pas, auquel cas, on va passer tout de suite à la suite et ça serait encore...
On aura les séries Netflix entre-temps, quoi.
C'est ça, on aura les séries Netflix. Justement, parlons-en, puisqu'on a une annonce pour Punisher, la série arrive en novembre sur Netflix, et c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment, mais ça suffit déjà à nous rassurer.
C'est un bon rythme à côté, parce que t'as les Defenders à la rentrée. Avec la diffusion, on va laisser un mois le temps de se... Il y a les Defenders et Inhumans en même temps. Puis après, en novembre, on t'aura fait une petite piqûre de rappel avec Punisher. Puis après, petite piqûre avec Jessica Jones qui arrivera certainement début 2018, vu que ça arrive.
Ouais, ils ont commencé le tournage là. On a eu quelques photos qui ont leaké. Donc, Luke Cage saison 2, le tournage a commencé aussi. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a Shades qui va revenir a priori, donc Théo Rossi qui va faire son retour. Mais c'est comme tu dis, c'est au niveau série télé, c'est chargé aussi fin de l'année. Là, ils ont fin d'année début 2018, on a un paquet de trucs qui vont sortir. Et je ne serais pas complet si je ne parlais pas de cette série qui a surpris un peu tout le monde, hein, New Warriors, qui est prévu pour fin 2018. pour l'hiver 2018. Le tournage va se dérouler à Atlanta, donc c'est un peu la ville, c'est la ville de Marvel Studios à la base, hein, c'est surtout là qu'ils filment les Captain America notamment. Un petit rappel, Fox, sur la team des New Warriors qu'on va voir sur le petit écran.
Alors, les New Warriors sont la team dans les comics qui sont entre guillemets à l'origine de Civil War, vu que ce sont des jeunes mutants super-héros qui sont comment dire
c'est de la real TV en fait.
C'est une vraie real TV, c'est-à-dire ils sont suivis par des caméramans machin. Jusqu'au moment où vous reprenez, quand on avait fait le focus sur Civil War, on avait un peu expliqué, le personnage de Speedball et son équipe vont faire exploser un mec, enfin un mec va se faire sauter quand ils vont essayer de sauver une école et ça va déclencher un carnage. Et c'est cette équipe-là, qui est pas terrible, faut bien le dire, hein, mais qui est composée donc de Squirrel Girl, qu'on appelle en français écueillerette.
Ah oui, tiens, je ne savais pas.
Oui, écueillerette en français, écueillerette, oui, c'est, j'ai toujours pas digéré. Écueillerette, Mister Immortal, dont les pouvoirs, son pouvoir c'est d'être immortel. En clair, il est pas extrêmement fort, il est pas fut-fut, mais il peut pas mourir, donc c'est pratique. The Night Thrasher, Night Thrasher qui est une espèce de Batman du pauvre version Marvel. Donc il a vu ses parents mourir, il est très riche, c'est lui qui va fonder les New Warriors d'ailleurs. De ce personnage donc de Speedball qui est un jeune homme qui a la capacité incroyable de pouvoir se rendre élastique entre guillemets, dans le sens où tout ce qu'il peut toucher, il rebondit en fait. Il peut rebondir comme une balle, il contrôle plus ou moins son énergie cinétique, ce qui crée des gros problèmes. On a Microbe qui a été élevé entre guillemets par Night Thrasher, qui est un gamin qui peut contrôler les germes et les microbes par la pensée.
Ce serait bien pratique pour moi, ça, tiens.
Oui, c'est ça. Les allergies, plus jamais.
Je veux son pouvoir. Et Débris.
Et Débris, oui, qui porte pas vraiment bien son nom, mais qui est une psychokinésiste qui a un caractère de chien et qui avait rejoint le casting donc des New Warriors pour travailler comme un peu responsable télé et essayer de faire le showrunner avec eux, quoi.
Voilà, en parlant de showrunner, le vrai showrunner, celui de la série télé, ce sera Kevin Beagle, qu'on avait déjà pu voir sur Scrubs et sur Cougar Town, la série avec Courtney Cox. C'est prévu pour l'hiver 2018 New Warriors, et on vous en reparlera, à mon avis, pas avant un petit moment. Je pense qu'on n'aura pas plus d'infos avant quelques mois, donc c'est pour le moment à peu près tout ce qu'on peut vous dire du côté des news. C'est assez léger ce mois-ci, on va pas se mentir.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale tirée du MCU. On va rester sur la bande-son de Guardians of the Galaxy Volume 2, comme le mois dernier en ce qui me concerne, avec un extrait de la bande originale, cette fois-ci de Tyler Bates, un morceau que j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est le morceau que nous avait fait découvrir Tyler Bates et James Gunn via Instagram à l'époque, quelques semaines avant la sortie du film. C'est le morceau Dad, et je le trouve absolument fabuleux. Bad à l'instant, c'était Tyler Bates sur la bande son de Guardians of the Galaxy volume 2.
The Tesseract has shown me so much, it's more than knowledge, it's truth.
Avengers, c'est pas l'heure, notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Alors, j'ai envie de dire, faut qu'on y passe, parce que moi, je suis pas particulièrement motivé, mais il va falloir faire le bilan de la saison 4 d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui s'est terminée, donc, depuis notre dernier épisode, voir un peu ce que ça ouvre comme perspective pour la saison 5, sachant que ce sera potentiellement la dernière, et puis voir aussi si on va pouvoir enfin avoir des connexions avec les autres séries télé. Je pense notamment à Inhumans, hein, qui va précéder, donc, la saison 5 d'Agents of S.H.I.E.L.D. Est-ce qu'on aura des connexions du coup entre les deux séries ou est-ce que c'est juste un hasard du calendrier? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut faire un petit bilan sur la fin de cette saison 4? Comment ça se termine? Ça se termine avec des gros cliffhangers une fois de plus, que ce soit en termes de relations entre les personnages ou de situation de Coulson qui une fois de plus a l'air de se retrouver dans un endroit absolument improbable, en l'occurrence dans l'espace. Il y en a un de vous deux qui veut commencer? Qu'est-ce qu'on en retire de cette saison 4 finalement?
Je propose de laisser Fox parler, je pense que c'est seul à être assez motivé par la fin de cette saison.
C'est le seul qui a vraiment accroché. Moi, j'étais plus mitigé.
J'ai pas accroché, hein. J'ai accroché, mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui vont pas, en fait.
Alors, indépendamment de l'avis critique sur lequel on repassera plus de temps, parce que c'est pas l'objectif du podcast non plus, et c'est puis ça. Sinon, je risque de m'étendre encore sur pourquoi je n'ai pas aimé l'arc sur le monde parallèle, enfin la Matrix. Fin de saison 4, quel est le bilan, en fait, au niveau de la team? Il y a des changements?
Le bilan, déjà, il y a un mort, oui. Puisque le directeur du Shield est mort, plus ou moins, enfin, Coulson et les autres vont avoir du mal à prouver, justement, ce qui s'est passé dans le framework, même si Ada est arrivé. Le problème, c'est que Fitz et le Toubib ont quand même créé Aida, et donc, du coup, c'est la faute du Shield, donc
c'est la faute
ils vont
de
avoir
Fitz
les
surtout moi je trouve hein.
C'est la faute de Fitz, oui, donc ils vont avoir les militaires sur le cul et ça va être coton. Après le dernier épisode de la saison a complètement expédié tous les problèmes en 42 minutes, ce qui m'a beaucoup surpris. J'ai trouvé ça vachement expédié dans le sens où elle arrive, elle casse tout le monde, elle massacre des soldats. Ghost Rider sort de... Eh ben, moi aussi, je peux sortir. Ah, t'étais pas disparu, toi? Qu'est-ce que tu fais là?
Moi, je l'appelle Plot Rider depuis la fin de cette saison 4.
Ah, mais c'est ça, c'est Plot Rider. Ah, mais je suis d'accord. Il y a Plot Rider qui arrive, il fait alors... Ça,
alors, on a besoin d'un
deal.
Truc surpuissant, là, on sait pas quoi faire. On va rappeler le mec du début, là.
Tiens, mais maintenant, elle est humaine.
C'est ça.
Vas-y, Coulson. Alors, du coup, Coulson, elle a la peur de moi, donc je vais te prêter mes pouvoirs. Tu fais un deal avec mon démon, je te prête mes pouvoirs, et puis YOLO, quoi.
Voilà, c'était un peu trop fanservice pour mon goût, cette scène-là, mais bon.
J'ai pas trouvé ça terrible, et puis du coup, on se retrouve avec surtout la fin de cet épisode où j'ai absolument rien pané, et ça fait un mois que je cherche le pourquoi du comment. Ils sont dans l'espace.
Ouais, alors a priori, si je dis pas de conneries, vous me corrigez, mais il me semble avoir lu que ce ne serait pas le Sword, donc ça a été démenti. Mais ouais. Je me demande si c'est pas plutôt... Enfin, il faudrait que je vérifie mon info, mais il me semblait avoir lu que ce ne serait pas le Sword. Je pense qu'il y a un problème de droit avec le Sword, parce que le Sword est apparu pour la première fois dans une création de Whedon, mais dans les X-Men, en fait. Hein, oui. C'était dans l'arc des X-Men qu'il a écrit, les Astonishing X-Men. Donc du coup, je pense que c'est potentiellement à la Fox, et que c'est la raison pour laquelle en fait le Sword avait déjà été mentionné dans le MCU dans une scène du premier film Thor, une scène qui avait été coupée finalement au montage final, et qui est dans les bonus du Blu-ray, mais qui ne figure pas dans le film, donc on ne sait pas trop si le Sword est déjà intégré ou pas dans le MCU, et si c'est pas le cas, on pensait que ça pourrait être une ouverture. Est-ce que vous pensez qu'ils vont essayer de surfer sur l'arrivée de Captain Marvel et donc se dire bon, il va sûrement y avoir des trucs à faire dans l'espace, même si on peut pas utiliser Captain Marvel ou le lore direct, on va malgré tout surfer un peu sur la vague de la même manière qu'ils l'ont fait en fait en début de saison 4 avec Doctor Strange?
Je pense que ça va surtout surfer sur ce qu'on va voir en fait avec Inhumans, parce qu'on a donc la famille royale qui va arriver. On peut pas lui dire bon bah elle était sur Terre depuis le départ, mais personne ne les a vus parce que c'est comme ça.
A priori, il y a des scènes sur la Lune, hein, on a vu dans le trailer. Donc
c'est à ça que je pense principalement, ouais, qu'on ait un petit peu Tylan sur la Lune et que du coup, ça soit le truc qu'il rajoute. Alors, Sword, ça me paraît un peu trop facile pour que ça soit ça.
Bah, surtout, Sword sans Captain Marvel, du coup, ça va être un peu bizarre, donc je suis pas sûr. Et si ça se trouve, le Sword est dans le film Captain Marvel ou sera dans le film Captain Marvel, plus exactement. Je doute que ce soit une... Enfin, si c'est chez Marvel, si c'est pas chez la Fox, je pense que c'est chasse gardée de l'univers ciné, parce que c'est quand même trop trop gros. Et puis c'est pas facilement exploitable dans une série télé qui est en fin de vie, où on va avoir moins de moyens, moins de budget, et où faire un truc dans l'espace full time, ça va quand même être un peu compliqué, quoi.
Après, ils font quand même beaucoup d'efforts pour que ça y ressemble, hein, parce que la scène dans le diner à la fin, ils sont en train de manger, le mec arrive, on voit vraiment pas sa tête, il sort un petit gadget que personne connaît.
C'est ça.
Qui et après il y a Coulson. Donc il s'est passé un laps de temps indéterminé, ça avait été confirmé par Jed Whedon, qui fait « Bon bah allez, c'est l'heure d'aller au taf les gars !» Comme si de rien n'était. Ça fait gros effort pour que ça y ressemble, et moi je serais assez étonné que ça le soit aussi.
Ça me rappelle un truc en fait, très bêtement, ça me rappelle le lancement des Agents of S.H.I.E.L.D. qui coïncidait au lancement de Captain America en fait.
C'est-à-dire à quel niveau?
C'est-à-dire que rappelle-toi, la première saison des Agents of S.H.I.E.L.D., on avait 17 épisodes pour pas avoir Hydra, nommer Hydra, et tout ce qui passait, c'était le setup qui va nous faire comprendre que c'est Hydra qui est revenu, donc Captain America, 3 semaines après, boum, surprise, tu vois.
C'est-à-dire que le lien avec le MCU serait les Captains, en fait.
C'est ça, le lien avec le MCU, ce serait les Captains, et ça me ferait beaucoup rire qu'en fait, il se retrouve justement avec le Sword, et que là, cette dernière saison, parce que on pense tous, on est tous d'accord que ça quand même la fin et que ce sera certainement la dernière saison, ce serait passer la main, que Coulson passe la main d'un capitaine à un autre en fait, et que justement la fin des Agents of S.H.I.E.L.D. soit la fin d'un programme et la fin du projet qui va amener à la naissance de Captain Marvel, tout simplement.
Après, moi je pensais que c'était la dernière saison, suivant ce que donnerait Inhumans. Et vu ce que j'ai vu d'Inhumans, j'ai tendance à penser qu'il y aura une saison 6 quand même.
Oh, je sais
c'est
pas.
Vrai.
Ouais.
Les chiffres sont pas bons, c'est ça aussi. Les chiffres sont pas bons pour Agents of S.H.I.E.L.D. Donc.
Alors, je faisais un petit tour quand on faisait la préparation de l'émission sur Reddit ou des trucs comme ça, voir un peu ce que les viewers en pensaient. Les chiffres sont pas ouf, mais globalement, la saison 4 a été plutôt bien reçue.
Ouais, tout à fait. Je pense que, enfin, moi, ce que j'en ai lu, c'est qu'elle avait de très très bonnes critiques auprès de la base de fans, en fait. Donc, tout le monde était très très content. Il y a certaines critiques sur le Ghost Rider qu'on a trouvé un petit peu éclipsé rapidement. Mais sinon, en dehors de ça, effectivement, la fanbase Agents of S.H.I.E.L.D. était ravie de cette saison 4 et trouvait que c'était pour le moment la meilleure saison de la série. Ça se discute, hein. On n'est pas fondamentalement d'accord. Mais surtout, il y a, pour le coup, sur Reddit aussi, et ça, je pense que tu pourras me le confirmer, Thomas, puisque c'était à été lire, t'as dû le ressentir aussi, cette impression, quand même, qu'il y a un constat de déception, de voir qu'effectivement, il n'y a plus rien qui se connecte avec le MCU ciné, et plus personne n'y croit, en fait. Enfin, même les fans purs et durs commencent à dire, il n'y aura plus de connexion avec le Cinoche, et c'est pas grave, et c'est pas plus mal, parce que comme ça, la série peut évoluer dans son truc à elle. Je sais pas si t'as ressenti ça aussi, mais il y a quand même aussi...
Ce que j'avais ressenti, c'est quoi, ils font le deuil de ces connexions, en fait, et au final, je suis assez d'accord avec eux que c'est pas plus mal de se dire, ils font ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit bien ou mal, hein. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils se font pas chier à nous faire utiliser des faux liens.
Moi, j'ai toujours dit, tant qu'ils se contredisent pas d'un univers à l'autre, j'ai aucun problème avec le fait de voir ces films évoluer dans des continuités parallèles, mais pas forcément interconnectées de manière évidente. Fox, je sais pas ce que t'en penses. Toi, si tu veux plus de, tu voudrais qu'on revienne à quelque chose de plus connecté?
J'ai toujours été un zélote du It's All Connected, et étonné que nos is connected, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule de voir que on a fait un épisode spécial sur la guerre entre ciné et télé, mais moi ça me fait chier de voir que Coulson, on va être à la 5e saison, Coulson n'a toujours pas revu le cap, personne n'est au courant qu'il est en vie alors que le mec il est un peu partout, et que c'est quand même étonnant que même Stark qui a les yeux partout soit pas au courant que Phil Coulson est en vie. Enfin, il y a pas mal de trucs qui pour moi vont pas en fait, et c'était lui qui devait être ce lien, parce qu'il est venu des films dans la télé. J'aurais bien aimé qu'en tant que personnage de télé, il retourne dans les films à un moment, quoi.
Je te cache pas que moi, ce qui fait que j'ai perdu un peu d'intérêt de manière générale dans les séries télé, hein, que ce soit les séries, la série ABC ou bien les séries Netflix, c'est justement le fait de me dire, ok, maintenant je suis quasiment certain que des connexions il n'y en aura plus, et que si ça se fait, ce sera des références dans un seul sens et pas dans les deux. Donc ça perd un peu de son intérêt pour moi dans une ère. Enfin, là où j'étais beaucoup plus tolérant, si tu veux, au début, j'étais très patient avec Agents of S.H.I.E.L.D. parce que je me suis dit, ok, c'est intégré dans l'MCU, donc c'est malgré tout intéressant de suivre. Si maintenant ça n'a plus aucun impact, il ne reste plus que la qualité globale de la série, et pour moi, Agents of S.H.I.E.L.D. ne remplit plus les cases d'une série suffisamment pertinente. Donc je trouve qu'il y a quand même, ouais, c'est bien que les séries évoluent dans leur propre univers, mais je trouve que ça manque quand même de connexion organique avec le ciné, et quelque part ça blesse un peu, quoi. Je sais pas si toi ça te manque aussi, mais
le simple principe de la Stark Tower qu'on voit pas dans les séries Netflix, ça me rend complètement fou.
Ouais.
Ça c'est stupide. Je veux dire, les mecs ont une mine d'or devant eux. ils ont une armada de crétins, parce qu'on est, je nous mets dedans, hein, attention, je précise pour que les auditeurs se fâchent pas, mais on est une armada de crétins où on attend que ça. Et on est super enthousiastes. Et on ferait pas un podcast depuis 3 ans si on n'était pas des enthousiastes Marvel, je veux dire. Mais les mecs sont là. Non, mais en fait, on va pas le faire. On n'a pas envie parce qu'il y a un mec dans un bureau qui a décidé que non. Alors que tu rates une construction qui, en fait, les 10 ans du MCU, c'est une construction pharaonique. Et au final, tu vois que tout est en train de se fissurer pour des histoires stupides et qu'on rate une immense cohésion cinématographique qui aurait pu être la première véritable cohésion transmédia, quoi. C'est dommage. C'est dommage.
Ouais, tout à fait. Alors, faisons fi de toutes ces considérations critiques sur Agents of S.H.I.E.L.D. de manière générale et sur l'absence d'intégration avec le MCU ciné. Qu'est-ce qu'on peut attendre Qu'est-ce qui, toi, Thomas, te ferait plaisir, par exemple, pour une saison 5? Qu'est-ce qui te ferait redécouvrir la joie de regarder Agents of S.H.I.E.L.D. pour une saison 5 avec le setup qu'on a qui est quand même très flou, donc l'espace, manifestement, en tout cas au début de la saison. Qu'est-ce que t'en attends et qu'est-ce que t'aimerais y voir?
Alors moi, ce que j'aimerais y voir, ça va un peu dans à contresens de ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'Agent of S.H.I.E.L.D. fasse, c'est qu'ils abandonnent les Inhumains, en fait. Ils lancent la série Inhumans, j'espère que c'est pour ça. J'aimerais qu'ils deviennent S.H.I.E.L.D. encore, parce que une des choses qui me... Et ça va en parallèle, en fait, avec les liens entre ciné et télé, une des choses qui me saoule un peu depuis les saisons qui suivent, c'est le côté, on a le S.H.I.E.L.D., on a plus le S.H.I.E.L.D., ils sont undercover, puis non, ils reviennent, là, on a la fin de saison qui fait, ah bah non, ils sont encore en procès, donc on va les reperdre. La série s'appelle Agent of S.H.I.E.L.D. Essayer d'avoir un S.H.I.E.L.D. un peu concret, qui on suit les histoires du S.H.I.E.L.D. et on met de côté, parce que les Inhumans, ils sont embourbés dedans et c'est un truc qu'ils en sortiront, faut qu'ils en sortent en fait. C'est pas qu'ils en sortiront jamais, c'est faut qu'ils en sortent. C'est ce que j'aimerais bien voir.
Et toi, Fox, du côté de cette saison 5, il y a des attentes particulières,
hein? J'avoue que la fin de la saison m'a laissé dans le flou. J'aimerais une fin heureuse, si tu veux. J'aimerais que ce soit une fin, pour une fois. J'aimerais peut-être revoir Bobby et Lance. Voilà, j'aimerais bien voir le couple Nick Blood et Adrienne Palicki revenir parce que on les a perdus pour un truc totalement stupide de pilote qui a été étouffé.
Alors d'un point de vue purement pragmatique, moi je suis acteur, enfin je suis Nick Blood ou Adrienne Palicki. Je pense qu'on me fait un coup comme celui qu'on vient de me faire en me promettant un spin-off et en tournant un pilote et puis en me disant non mais finalement bisous. Je pense que je ne reviens pas bosser pour ABC. Mais après ça c'est une considération purement pragmatique.
Je suis d'accord.
C'est vrai que scénaristiquement, ça pourrait être intéressant de les revoir, puis ça ferait plaisir de revoir une des dynamiques qui était la plus intéressante dans ces saisons des Agents of S.H.I.E.L.D. Mais d'un point de vue purement humain, je pense que vu comment ça s'est passé, je doute qu'on les revoie si tôt.
Pour Adrienne Palicki, en tout cas, je pense qu'elle a tourné la page parce qu'elle est déjà sur une autre série qui s'appelle The Orville par le mec Seth MacFarlane.
Tout à fait.
C'est ça.
Donc, je pense
qu'on les reverra pas malheureusement. Ouais. D'autres envies du côté des Big Bad, moi j'entrevois bien un plot twist à la Joss Whedon comme il nous en a fait dans ses autres séries, à savoir que là on a le terreau pour un Fitz bad guy, un vrai bad guy ce coup-ci. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité qu'il nous fasse une Dark Willow mais avec Fitz, un Dark Fitz?
Je sais pas, il y a pas mal de trucs qui pourraient être intéressants parce que les travaux de Fitz ces dernières années ont été super importants. On a eu la construction du framework avec le Toubib, on a eu la construction d'Aida, mais on a eu Deathlock aussi quand il lui a refait son armure. Mais il est aussi le concepteur de l'armement du S.H.I.E.L.D., donc ça pourrait être intéressant. On pourrait revoir, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu depuis la saison 1, la résurgence d'AIM par exemple.
Graviton,
c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça qu'on n'a jamais revus et qui sont quelque part dans le warp qui pourraient être réutilisés. Ça pourrait être une très belle série de fin qui est, comme les Américains disent, mais de closure, quoi, vraiment closure. Tu fermes vraiment la chose. Puis après, je sais pas, hein, Phil Coulson et May qui partent finir leur bouteille de whisky dans le soleil levant. Voilà, c'est oui, moi je suis aussi Agents of Fields, je me respecte pas, mais j'aimerais bien que ça se termine un peu pas en queue de poisson. J'ai pas envie d'avoir une fin à la Angel, si tu veux.
Tant qu'ils nous refont pas un retour de Ward, c'est la saison prochaine. Son Evil Twin, tu vois. Ah, il avait pas, un frère jumeau en fait.
Il a pas raté une saison depuis 4 ans, donc on verra la 5e.
Enfin, dans le genre, ils peuvent nous faire un retour du Russe à la fin.
C'est vrai.
The Superior, parce qu'on sa cervelle dans le bocal.
Ouais, il y avait une ouverture MODOK là hein, dans cette fin de saison. À un moment, il y a d'ailleurs une référence assez appuyée, un moment où il dit machine made for killing, ou un truc dans le genre. Et waouh, j'ai pensé à toi, Fox. Je me suis dit, ça y est, on y arrive enfin.
Moi, j'étais en train de préparer le t-shirt, hein, mais.
Écoute, je vais te dire un truc, franchement, je suis Joss Whedon. C'est ma dernière saison sur Agents of S.H.I.E.L.D., un chantier qui l'a quand même manifestement bien fait souffrir. Il est en train de tourner la page, là, puisqu'il est en train de commencer à bosser avec DC, notamment sur Justice League, et puis après, plus tard, sur Batgirl. Donc, je pense que là, il a envie d'en finir. Je me fais plaisir, je me fais un MODOK, quoi. Saison 5 avec MODOK, on y va.
Écoute, Joss,
avec une
Joss,
connexion si dans l'espace, un truc, je sais pas.
Si tu nous entends, Joss, on t'aime déjà, hein, depuis toujours, mais vas-y, fais-moi un MODOK, offre-moi ça. Fais chier,
MODOK russe sur la Lune avec des lasers.
Sans déconner, ça serait une bonne fin de série. Voilà, on y va à fond. Vous voulez du comics? Ok, on va vous faire du comics, on va vous faire un MODOK avec. Ça pourrait être vraiment bien. Moi, ça me ferait marrer, en tout cas.
Mais là, ça me fait penser à un point qui me rassure un peu, c'est qu'il commence en début 2018 sans coupure.
Ouais.
Donc ils prennent non seulement le temps de voir ce que va donner Newmans, mais j'ai l'impression qu'ils prennent aussi le temps de se préparer une saison comme ils le veulent, quoi. Enfin, j'espère que c'est ça, en tout cas.
Et puis surtout, en fait, la fin de la série va coïncider plus ou moins avec l'arrivée d'Infinity War première partie, donc il peut y avoir là aussi un impact assez conséquent, et ça serait l'occasion de renouer un peu les liens entre l'univers télé et l'univers ciné. J'aurais voulu qu'on parle aussi des connexions, du coup, entre les différentes séries télé. Ce sera l'occasion d'un prochain d'une prochaine rubrique de Theory Crafting, parce que là on a déjà largement dépassé les délais impartis, et puis comme ça nous laisse un peu du biscuit pour discuter la prochaine fois.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce 36e épisode des Clairvoyants, et c'est Fox qui s'y colle avec, on reste sur Guardians, mais du côté de l'Awesome Mix cette fois-ci.
Et on reste sur la même partie du film, parce que toi tu avais pris Dad, et moi j'ai pris Father and Son de Cat Stevens, donc on reste en fait dans la même séquence du film avec Ego. Et
on l'a même pas fait exprès.
On a même pas fait exprès, non.
Allez, on écoute ça tout de suite, Cat Stevens, Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault.
There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Father and Son sur le Awesome Mix de Guardians of the Galaxy Volume 2, c'était Cat Stevens.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, notre rubrique focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. On essaie de vous en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe dans les bandes dessinées et qui arrivera ou est déjà arrivé dans l'univers ciné du MCU. On va s'occuper ce mois-ci du Big Bad. Alors c'est pas le premier Big Bad, c'est le a priori deuxième. Enfin bref, Fox va nous expliquer tout ça. De Spider-Man, c'est The Vulture, le vautour en français, et c'est un Big Bad qui date de 1963, mon cher Fox.
Et oui, tout à fait. Il est apparu dans Amazing Spider-Man numéro 2, donc juste après Chameleon qui était dans le premier.
D'accord, donc c'est Chameleon le premier Big Bad de Spidey.
C'est le premier ennemi de Spidey, mais c'est pas le premier véritable super méchant en fait, puisque The Vulture est le premier costumé doté de certains pouvoirs en fait. Chameleon est un espion maître du déguisement, donc on va dire le premier super vilain, c'est vraiment The Vulture.
Voilà, créé par la paire incontournable Stanley et Steve Ditko. Donc c'est Adrian Toomes, son vrai nom, oui. Et c'est un New Yorkais de Staten Island.
C'est ça, il a un nom prédestiné, il s'appelle Toomes comme un certain Big Bad de X-Files, mais c'est un monsieur qui au départ a eu une vie assez normale pendant son enfance, jusqu'au moment où donc Adrian perd ses parents et va être élevé par son frère aîné Marcus, qui va s'occuper de lui. Ils ont une situation qui est pas facile, hein, mais il a une jeunesse assez normale avec son grand frère qui prend soin de lui. Et pendant sa scolarité, ses professeurs vont mettre l'accent sur le fait qu'il a des capacités intellectuelles assez développées, et donc il peut faire de grandes choses. Malheureusement, Marcus va avoir un accident de moto et va devenir paraplégique, ce qui va faire que les rôles vont un peu s'inverser, et Adrian va commencer à s'occuper de lui, parce qu'évidemment il pourra plus faire grand chose, le pauvre. Et il va continuer néanmoins à travailler et il va devenir un ingénieur électronicien et va confonder avec Gregory Bestman une entreprise qui s'appelait Bestman & Toomes Electronics, qui était une société chargée de créer des objets, c'est-à-dire que Adrian était l'inventeur des objets, des machines et ce genre de choses, et Gregory Bestman était chargé de s'occuper de toute la partie administrative et commerciale. Et c'est à cette époque-là que Adrian va commencer à travailler sur une espèce de harnais électromagnétique qui permettrait au départ à son utilisateur de voler. Ce qui peut être révolutionnaire, pour le coup. Toomes va se plonger dans son travail et puis va pas se rendre compte que Bestman, en fait, bah, il porte pas très très bien son nom, vu que
il va mettre dans sa poche.
Il met la main dans la caisse. Il met tout dans ses poches. Adrian va le confronter pour essayer de récupérer ce qui lui revient, hein, c'est tout à fait normal. Et pendant l'altercation entre les deux hommes, Adrian va se rendre compte que ben, les heures passées à développer ses projets, notamment son harnais, ont développé sa force. Donc il est extrêmement fort, mais bon, son ancien associé va pas se laisser intimider pour autant. Il va lui piquer l'entreprise et en prendre le contrôle total. Et tout ça va se retrouver ben, avec une main devant, une main derrière, et il va partir s'exiler dans une ferme, comme certains, ils partent à la ferme. Et il va continuer à travailler sur ses projets, et puis il va vouloir se venger, parce que c'est son premier motif, c'est vraiment la vengeance.
Alors on va faire juste un parallèle avec le MCU. Dans ce qu'on a pu voir de Spider-Man Homecoming pour le moment, sa motivation va être la même, hein, ça va être la vengeance, mais là en l'occurrence ça va être encore quelque chose qui va être lié à Stark, puisque ça va être mais c'est un peu l'axe central du MCU depuis le début, hein, donc ça. Je vois pas pourquoi ça nous surprendrait.
Non, mais c'est le premier générateur d'emmerde MCU de toute façon.
C'est lui qui fout le bordel depuis 10 ans. Et donc en gros, il va bosser, Toomes bosse sur la récupération donc de tout ce qui est débris du conflit de New York, hein, du premier film Avengers, et il va se faire voler le marché par une société fondée par Stark qui s'appelle Damage Control, dont on a déjà parlé, qui aurait dû être une série télé qui pour le moment est dans le placard, et qui donc va prendre leur lait, va lui voler son boulot, et du coup Toomes va jurer de se venger de Stark qui le considère donc comme son ennemi. Donc il y a à peu près la même configuration, mais c'est pas les mêmes personnages. Je voulais juste faire ce petit parallèle pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans le MCU par rapport aux comics. On revient à la version comics donc d'Adrian Toomes.
Bah, il dit toujours en sa ferme, il bricole sur son harnais et puis il va lui ajouter beaucoup de gadgets en fait. Pour aller avec ses gadgets, il va concevoir une combinaison qui vont lui donner des capacités et une apparence d'oiseau. Donc cette combinaison verte avec ces espèces de plumes, ce col emplumé assez ridicule. Enfin, à l'époque ça l'était pas, mais ça fait un peu bizarre aujourd'hui.
C'est Birdman en fait. Hein.
Il va prendre l'identité du vautour, donc de Vulture. Il va aller dans le bureau de Bestman, donc avec sa combinaison, pour essayer de trouver de quoi reprendre le contrôle de la société. Des preuves, des malversations et ce genre de choses, il va rien trouver. Et il va repartir avec tout ce qu'il pourra ramasser comme butin, mais c'est du menu fretin si tu veux. Et il va se rendre compte qu'en fait, avec cette combinaison, ben c'est facile de se faire de l'argent en volant à droite à gauche, et il va entamer une carrière de super criminel juste par appât du gain en fait, parce que c'est facile pour lui de le faire, donc il le fait.
Ce qui a l'air d'être à peu près le même cas dans le film aussi, de nouveau parallèle avec le MCU, puisqu'il y a cette scène où on voit Spider-Man surprendre des voleurs dans un ATM, un distributeur de billets, donc on peut supposer que c'est Toomes et sa bande, et qu'ils ont commencé comme ça finalement en cambriolant des petits distributeurs plutôt qu'en s'attaquant à des grosses choses, et que bah, ça va s'escalader par la suite.
Et ce que tu dis est tout à fait juste et peut être il fait tout à fait écho à ce qui s'est passé dans le comics en fait, parce que Toomes faisait des casses et il annonçait publiquement le lieu en avance. Donc il disait, je vais braquer telle banque mardi matin à 11h, t'avais tous les flics et tout, il arrivait, il braquait la banque, il repartait. Et c'est à partir de là qu'il va faire justement sa première rencontre avec Spidey, qui va réussir à contrer l'attirail du criminel, et parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gadgets, il va réussir à contrer certaines de ces machines, ça va l'envoyer en prison. Et là, ben, ça va devenir une guerre personnelle en fait. Ils vont se rencontrer plein de fois, Toomes va sortir de prison, il va s'évader, Spider-Man va toujours le ramener derrière les barreaux, et c'est après ces nombreuses rencontres avec Spider-Man et ses échecs consécutifs qu'il va décider de construire une vraie bande de criminels chargée de vaincre l'homme araignée, c'est-à-dire ben, le Sinister Six.
Ouais, dont on a déjà parlé.
Dont on aura une partie en plus là dans Homecoming en fait, parce que c'est les balbutiements d'un Sinister Six.
On sait que c'était un projet qui était en chantier chez Sony, hein, les Sinister Six, oui. Non seulement pour la franchise Spidey, mais aussi dans un film solo, enfin solo entre guillemets, donc à 6. Donc il n'est pas vraiment étonnant, on en avait déjà parlé à de nombreuses reprises, hein, de penser que Toomes va fonder une espèce de Sinister Six version MCU, avec en l'occurrence Tinkerer, Shocker, etc., etc. A priori deux Tinkerer, si j'ai bien compris. Enfin, ça va être à mon avis du même acabit. Donc, bah, justement, la némésis de ces Sinister Six, et plus particulièrement la némésis de Toomes, de Vulture, c'est donc bien évidemment Spider-Man, forcément.
Voilà, Toomes, c'est le premier criminel costumé que Parker rencontre, et c'est le gadget qui va mettre au point pour neutraliser ses ailes, qui va lui permettre de le mettre sous les barreaux. Cette défaite, ce qui va s'ajouter à la façon dont l'intellect de Spider-Man l'a surpassé en fait, va le rendre complètement fou, et ça va faire naître un nouveau sentiment de vengeance en fait, qui est rarement vu chez d'autres criminels. Tu prends l'exemple de Shocker ou d'autres, bon, ils sont criminels, ils affrontent Spider-Man, mais ils se croisent. Vulture va vraiment faire une fixette sur Spidey, au même titre que d'autres mecs comme Dr. Octopus par exemple, qui veulent vraiment le vaincre. Et il va mettre tout ce qu'il a sur lui, sur son intellect, ses moyens, ses gadgets, tout va être centré dans le but de défaire Spider-Man et pour une fois pour toutes le renvoyer au sol en fait, ce qu'il va jamais arriver à faire.
Et donc il va fonder les Sinister Six, on vient d'en parler, hein, et donc dans les comics c'était une configuration relativement différente de celle qu'on aura dans le film a priori, hein. Il y avait quoi, Docteur Octopus, Sandman,
Mysterio, il y avait Electro, il y avait le chasseur donc Kraven, il y a eu plusieurs itérations des Sinister Six, hein. Ça c'est l'une des itérations, et c'est pas toujours à la même époque, mais oui, ça, pour te montrer à peu près qui sont les mecs qui haïssent le plus Spidey, tu retrouves Octopus, Sandman, Kraven par exemple, ou Mysterio, c'est des ennemis très récurrents de Spider-Man qui lui en veulent personnellement. C'est à partir de là que ça crée le Sinister Six, donc ce regroupement de haters de Spidey.
Ouais, donc plus qu'évident à mon avis que s'ils ne sont pas mentionnés en tant que tels, il y aura un gros nudge au Sinister Six dans le film Homecoming. On va finir en faisant un petit profil psy de notre ami Adrian Toomes, qui manifestement a l'air d'être une fois de plus un big Bad finalement partie d'une petite d'un petit sentiment de vengeance et qui est devenu complètement cinglé sur la fin.
Alors le profil psychologique de Toomes est assez intéressant dans le sens où c'est une personne extrêmement intelligente, c'est un développeur de d'invention, le mec a quand même créé un harnais qui te permet de voler. On est en 63 dans les comics, au niveau des Big Bad, il a quand même inventé un truc assez surpuissant vu que ça lui permet de voler là où à la même époque pas mal de super-héros ne volent pas. Donc déjà le mec il est carré, il est puissant, il est très intelligent. Par contre, il a des petits problèmes psychologiques. Il est pas tout à fait stable vu que déjà si tu le contredis ou si tu te mets sur sa route, il est extrêmement rancunier, mais lui il est rancunier dans le genre fixette stalker meurtrier. Hein, il s'en fout. Et à côté de ça, ce même problème va lui créer ses deux plus grandes faiblesses, en fait, que sont la fierté et l'arrogance. Il est extrêmement arrogant. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'annoncer publiquement les braquages avant d'aller les faire, faut quand même avoir un grain. Et à partir de là, cette haine, elle va grandir, mais il se rend pas compte du tout que c'est lui qui crée ses propres problèmes. Dire il pourrait braquer une banque et se barrer. Non, il annonce, il invite Spider-Man à venir l'arrêter, il prend une peignée, il va en prison et il regrette pas. Après, il y a d'autres problèmes qu'il a aussi, parce qu'il est extrêmement fort, on l'a dit, parce que ses différentes expériences, ses différentes machines l'ont rendu extrêmement fort. Il a une apparence de vieillard, il ressemble quand même à un papy tout chauve, c'est pour ça aussi le costume de vautour, parce qu'il est tout chauve, il a le nez crochu, il est très fort, mais accessoirement, il est aussi extrêmement malade, et pas que mentalement.
Même dans la version ciné, hein, c'est vrai que Michael Keaton a pris un petit coup de vieux aussi, et donc ça colle pour le coup assez bien avec cette idée du perso qui a l'air assez peu dangereux en vrai.
Mais il est sournois en fait.
Ouais, c'est ça.
Il est extrêmement sournois. C'est le terme le plus approprié, c'est que c'est un super vilain qui est très sournois. Et le personnage de Keaton est très bien justement pour jouer sur cette partie où il va jouer l'industriel sympathique qui veut juste foutre le monde à feu et à sang pour se venger de Stark.
Alors il a un cancer dans les comics.
Oui, il a un cancer à un stade très avancé qu'il arrive à maintenir tant bien que mal. Il a été soigné en prison, puis son cancer est parti, puis il est revenu. Mais si tu veux, le cancer est un peu la punition. Qui l'accompagne à chaque fois, qui fait un méfait en fait. C'est-à-dire qu'il va être soigné en prison, il va sortir, il va essayer de refaire un peu sa vie, et puis il va repéter un câble. Quelques jours après, il va remonter un coup pour essayer de tuer Spider-Man. Spider-Man va le capturer, il va retourner en prison, et puis 3 mois après, on va lui annoncer que son cancer s'est encore aggravé. Et c'est comme ça en fait, il est dans une fuite en avant vers la vengeance, et on sait très bien que malheureusement, il n'y a que la mort qui pourra l'arrêter là-dessus.
Ouais, on verra si c'est aussi une donnée à prendre en compte dans la version ciné, donc de Spider-Man Homecoming, bientôt dans les salles au mois de juillet. On n'aura pas encore eu l'occasion, je pense, de le voir, à moins que cette fois-ci Marvel, coucou Marvel, nous invite aux avant-premières. Mais sinon, on attendra patiemment qu'il sorte chez nous mi-juillet. On ira le voir et on en reparlera donc dans le podcast du mois d'août dans 2 mois. En attendant, ça vous laisse le temps d'aller lire quelques comics sur The Vulture et on va en profiter justement après la prochaine pause musicale pour faire un peu le point avec Thomas là-dessus et voir ce qu'il y a lieu d'aller lire pour découvrir The Vulture.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, 3e et dernière pause musicale, toujours tirée d'une bande-son du MCU. Mon cher Thomas, cette fois-ci, tu nous as fait un petit retour en arrière avec un extrait de la bande-son de Ant-Man.
Je me suis pas concerté avec vous deux pour essayer de taper dans les histoires de père ou dans GOTG. Moi, je préparais ça, donc j'étais dans le thème de l'araignée, je me suis dit, tiens, on va taper un petit peu dans le thème de l'insecte. Et j'ai regardé Ant-Man il y a pas longtemps encore, et je me suis rappelé que le thème était franchement génial, avec les petits passages un petit peu doux, et bam, on tapait sur des grosses percussions, c'était assez sympa.
C'est un très bon thème de heist movie, en fait. Hein.
Même pour le perso, je trouve qu'il colle vraiment parfaitement.
Eh ben voilà, Christophe Beck, donc, qui avait signé aussi pas mal de bandes-son pour la télé, notamment Buffy, sur la bande-son ici de Ant-Man, avec le theme from Ant-Man. Thank you. Theme from Ant-Man, tiré de la bande-son d'Ant-Man, donc c'était Christophe Beck.
He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets.
Marvel Insiders, notre rubrique recommandation de lecture. On a parlé du Vulture dans le Focus. On va donc, Thomas, recommander trois arcs à lire dans les comics pour en apprendre un petit peu plus sur le personnage. Et on commence avec un arc des Marvel Knights de 2004, Spider-Man volume 4.
Donc ça, c'est un arc, c'est même pas un arc, c'est plus en fait juste un single issue de Marvel Knights.
D'accord.
Donc qui a été fait en 2004, comme tu l'as dit, qui a été écrit par Mark Millar.
Monsieur Civil War, donc.
Monsieur Civil War. Monsieur Millar World. Ça en fera rire certains, surtout sur le Discord. C'est Terry Dodson au dessin. Et donc du coup j'ai choisi cet arc parce que c'est un épisode, en fait on a bien la fourberie de Tooms dont on parlait tout à l'heure, vu qu'on a Spidey qui est à l'hôpital pour des blessures qu'il a reçues sur une bataille précédente. Et le Vulture s'est dit, tiens, mais je vais en profiter pour le kidnapper, parce que je sais où il est, j'en profite pour le kidnapper, et comme ça je pourrais savoir sa vraie identité, je pourrais savoir qui c'est. Il y a un dénouement assez rigolo quand il découvre qui c'est. Black Cat arrive à le sauver vraiment in extremis, et en fait on va avoir des petites conséquences derrière sur le reveal de l'identité Spider-Man qui vont être relativement intéressantes.
D'accord, donc c'est Spider-Man issue 4 en 2004, donc dans la série Marvel Knights. Deuxième recommandation du côté de Amazing Spider-Man, un arc de deux numéros en 2010, c'est ça?
C'est ça, donc là c'est sur la série régulière d'Amazing Spider-Man. Ça a été écrit par Mark Waid, qui est un très bon auteur, qui est un monsieur dont j'aimerais beaucoup avoir le bureau, parce que je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus quel reportage c'est, je crois que c'est
documentaire sur Marvel la Renaissance, c'est ça, ouais.
Ouais, il a un buste Doctor Doom que je rêverais d'avoir. Donc ça a été écrit par Mark Waid, ça a été dessiné par Paul Achetta. Dans celui-ci, en fait, donc on s'éloigne un peu du thème, on s'éloigne un peu d'Adrian Toomes. On est sur un New York où il y a un nouveau Vulture qui arrive. Un Vulture vraiment plus féral, en fait, parce que celui-ci a des vraies ailes, donc il vole vraiment. Il peut cracher de l'acide, il est très...
Très animal.
Très animal, exactement, voilà. Mm. Ça déconcerte un peu Spidey, qui était plus habitué à quelqu'un qui réfléchit, qui est posé, qui est plus...
Méticuleux.
Méticuleux, voilà, dans son crime, que là où c'est vraiment... Il y a une cible, je l'attaque.
Donc ça, c'est Amazing Spider-Man 623-624 en 2010, donc une série signée Mark Waid. Et puis dernière série, c'est le Amazing Spider-Man Annual Number 1 de 1960. 64, là on remonte très très loin.
Moi, je suis carrément à un an près, je suis reparti à la genèse du perso. Donc c'est très peu de temps après la création de Vulture, hein, c'est parce qu'il s'est juste pris 2-3 roustes. Donc là ça a été écrit par Stanley et Steve Ditko, donc c'est les deux papas du personnage. On a la première apparition en fait du Sinister Six. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est donc le Vulture s'est fait envoyer en taule une ou deux fois si je me rappelle bien. On a un petit peu ras-le-bol de Spidey, commence à se dire tiens, il y en a d'autres qui sont en même cas que moi, donc on les a cités tout à l'heure, donc il y a Doc Ock, Kraven, etc.
Comme on dit chez moi, l'union fait la force.
Exactement. Alors ce qui est marrant, c'est que le terme s'applique bien.
C'est vrai.
Mais quand on le lit en fait, les mecs se disent tiens, on va faire un groupe, mais on va quand même le taper un par un parce que sinon c'est pas juste. Moi j'aime beaucoup l'arc parce que c'est sa galère de vilain qui est vraiment représenté au mieux, quoi. On a les meilleurs vilains que Spidey a eu jusqu'à présent. Et puis c'est là quand même le Sinister Six, les premiers, l'apparition du groupe. Et c'est une lecture que moi c'est pas franchement génial, mais c'est quelque chose que j'aime bien lire.
C'est pas trop daté, en fait. C'est un comic quand même des années 60. On sait que Stan Lee avait une plume quand même très très enfantine, très très candide parfois. C'est
ancré dans son époque. Ouais, si on peut le dire, c'est ancré dans son époque. Il faut pas le prendre avec le contexte actuel. Il faut vraiment se rappeler que ça a bientôt 50 ans, même plus de 50 ans. Il faut pas l'oublier. Mais ça reste une lecture assez sympa quand même.
Voilà, et comme d'habitude, on vous mettra tous les liens pour aller récupérer les infos qui vont bien sur ces recommandations de lecture chez nos amis de Comic Vine. Merci Archéon.
De rien.
Allez, pédé, il y a une lettre pour vous. Tenez, bonne bourre. Pauvre con, hein.
Et c'est l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier, dans laquelle on essaie de répondre à vos questions. On a trois questions qui nous viennent de Twitter. La première de Gilles François qui nous dit dans la vidéo LOL de Thor parue ces derniers jours, donc j'imagine qu'il parle de cette vidéo qu'on a vue avec Chris Hemsworth qui jouait les figurines des Avengers. Donc parue ces derniers jours, on le voit avec Mjolnir et survit donc bien à la destruction par Ella. Alors c'est une question qui est a priori rigolote, mais qui en fait est peut-être un peu plus sérieuse que ça, parce que il faut aussi signaler qu'on a vu une photo de tournage de Infinity War avec un des frères Russo qui avait Mjolnir en main. Donc il n'est pas impossible qu'effectivement le marteau mythique survive. Je sais pas ce que t'en penses, Fox.
Le truc, c'est que le marteau n'était qu'un réceptacle en Uru, donc le métal des nains qui travaillent pour Odin, qui n'est qu'un réceptacle de pouvoir de Thor. C'est pour ça qu'il avait gravé sur le marteau: celui qui portera le marteau détiendra les pouvoirs de Thor. C'est-à-dire que le marteau est un réceptacle.
Donc tu peux le reforger, en fait.
Mais je serais partant pour dire qu'en fait le marteau n'est qu'une extension du pouvoir de Thor, en fait, et que quand Thor, pour une raison X ou Y, reprend les pouvoirs conférés par son père, il recrée le marteau lui-même, en fait. Au même titre que quand il prend le marteau, il a l'armure. Dans l'autre sens, il pourrait avoir l'armure qui recrée le marteau, par exemple.
Ouais, et ça pourrait être donc le retour de Mjolnir dans Infinity War. Deuxième question, Nico, toujours sur Twitter, qui nous demande pourquoi les films du MCU sortent traditionnellement plutôt en Europe qu'aux US. A priori, d'après les infos que moi j'ai, c'est un choix stratégique de Marvel Studios, et a priori plutôt de Disney d'ailleurs, de sortir les films d'abord chez nous pour bénéficier du buzz à l'international au moment où le film sort aux US. Ça s'est avéré jusqu'ici plutôt payant. On sait que les films Marvel marchent très très bien à l'étranger, et donc forcément il y a un effet d'entrain quand ils arrivent aux US deux semaines plus tard, enfin 10 jours après. La seule différence, c'est Spider-Man, parce que là c'est distribué par Sony, qui a une politique de distribution qui est différente, qui sort elle plutôt ses films d'abord aux États-Unis et puis profite de l'entrain US pour inonder le reste du marché. Donc c'est des choix qui se valent, hein. Il se trouve que là, pour le coup, comme c'est Sony qui gère la distribution, ça va être différent pour Spidey. Mais sinon, voilà, réponse finalement assez simple à cette question, mais c'était une question qui méritait qu'on s'y intéresse. Julien B, dernière question, toujours sur Twitter: n'êtes-vous pas inquiet pour le MCU post-Infinity War avec l'introduction de personnages au pouvoir ingérable scénaristiquement comme Adam Warlock? On n'en a pas encore parlé de Warlock, on va y venir un jour. Il n'est pas dit que déjà dans le MCU il soit aussi puissant que son alter ego dans les comics, hein. On sait que le Marvel Cinematic Universe a tendance à nerfer un peu, comme on dit, les persos. On sait que c'est le cas pour Scarlet Witch, c'était le cas aussi pour Vision. Il n'est pas impossible que ce soit le cas pour Warlock, et puis même il n'est pas impossible qu'il y ait aussi apparition de nouveaux persos, départ de certains persos, donc remplacement du roster avec des persos plus puissants. C'est que Captain Marvel est annoncé comme étant le personnage le plus puissant du MCU. Donc voilà, il y a encore des choses qui arrivent du côté des gentils, on va dire. Donc je pense que il y a de quoi faire. Ils pourront facilement s'attaquer à un Warlock. Je sais pas ce que t'en penses, Fox. Est-ce que tu as déjà commencé à préparer ton focus sur le personnage?
Non, je veux pas. Non. non, mais pour pas plaisanter, mais c'est honnêtement, la phase post-Infinity War, ça va rejoindre complètement ce qu'on vit actuellement dans les comics, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Captain Marvel, le nouveau Civil War, c'est Captain Marvel contre Iron Man. Captain America est très en retrait parce qu'il a ses propres histoires à côté. Je serais pas étonné qu'au niveau du MCU, Chris Evans aussi, il reste pas extrêmement longtemps, et que Tony Stark passe la main à un young Iron Man. Donc on aurait une Captain Marvel qui serait en bout de piste pour 2020 et qui serait la chef de file d'un nouveau Cinematic Universe. Après, est-ce qu'ils vont continuer sur la même lancée avec autant de films, autant de vitesse? Je sais pas, on arrivera en 2020, à 2022, la dernière échéance, on arrivera à 15 ans de MCU. C'est énorme en termes d'investissement, de temps, de création et le reste. Ça va finir par s'essouffler. C'est mathématique, tu peux pas maintenir une série pendant 20 ans.
Moi, je suis pas convaincu.
Les gens commencent à en avoir marre aussi.
Je pense qu'ils ont attendu justement d'avoir un bon rythme pour se permettre de passer à 3 films par an, alors qu'ils étaient à 2 films jusqu'ici. Je vois pas le rythme se ralentir.
Ouais, mais il y a la concurrence à côté, c'est ça qui m'inquiète.
Je pense que s'ils arrivent à se renouveler suffisamment d'un point de vue thématique, il y a pas de problème, en fait, et je pense qu'ils pourront survivre malgré une forte concurrence en face. Personne est à niveau au niveau des, enfin, du côté super-héros. La Fox, c'est un bordel sans nom. Le DCCU, on n'en parle même pas. Et je pense qu'ils ont encore le temps avant de se faire rattraper à ce niveau-là, et ils seront déjà probablement passés à autre chose à ce moment-là. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et je pense que quand Kevin Feige dit que la fin de la phase 3 va annoncer quelque chose de complètement différent pour la phase 4, je lui fais confiance, et je pense qu'ils ont des idées de renouvellement justement sous le coude, que du coup, bah oui, on va pouvoir jouer avec des persos peut-être un peu plus puissants comme Warlock, on va peut-être décoller complètement dans le cosmique et quasiment plus jamais revenir sur Terre, c'est une possibilité aussi et ça pourrait être assez fun. Voilà, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas via Twitter, les clairvoyants, sinon sur le thread Geekzone, on sera là pour prendre note et vous répondre dans le prochain épisode. Et c'est la fin de ce 36e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Vulture avant d'aller voir Spider-Man Homecoming au cinéma. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler le mois prochain, les gars?
Alors, on a tout le pack des super méchants qui vont avec de Vulture. On a déjà Shocker, on a quelques petites infos. Et puis, ça va dépendre aussi de ce qu'on va avoir comme petit trailer dans les jours qui arrivent. Parce que nous, il nous reste 3 semaines, ouais. Ça, il nous reste 3 semaines, 4 semaines avant la sortie du film. Donc,
Ah, mais on va sortir un épisode dans la semaine, il y a un truc qui va tomber.
C'est à peu près ça.
Oui, c'est ça, on va sûrement avoir un nouveau trailer demain. En fait.
On aura un trailer demain, vous en saurez plus demain.
Bref, on vous rappelle en attendant que vous pouvez soutenir l'effort de guerre sur Geekzone et donc en particulier les clairvoyants via le Patreon. Vous allez sur geekzone.fr, en haut à gauche du site, il y a un lien vers le Patreon. Vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 10 euros, que sais-je, ce que vous voulez. Nous, ça nous aide un petit peu à dire non à d'autres boulots qui sont plus chronophages et pour nous concentrer sur Geekzone et sur les podcasts. Il y a aussi des dossiers sur l'univers cinématique de Marvel sur le site que vous pouvez aller consulter, puis bientôt un livre, on en reparlera quand il sera sorti, parce que pour le moment j'ai pas le droit d'en parler encore.
À la fin du mois?
C'est fin juin, je crois que c'est le 30 juin, un truc comme ça. Bref, on en reparle le mois prochain, et d'ici là, bon Marvel, bonne série télé, bon film, tout ce que vous avez à rattraper, faites-le, et nous on se retrouve dans un mois. Ciao les gars.
Ciao.
Ciao.
Allez, c'est parti. Petite gorgée de Dr Pepper.
Oh le mec quoi.
Oh le mec, il se la pète.
Petite gorgée de café Carrefour.
Moi j'ai du thé glacé maison. la gorgée de café Carrefour, le café
pur arabica.
Qui fait monter dans les tours.
Nous ne sommes pas du même monde. Clairvoyant.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.